Europe 1, il est 6h.
La droite n'est plus en mesure de gouverner cette ville.
Michel Rubirola, écolo à la tête de l'Union des Gauches à Marseille, fait vaciller un quart de siècle de domination de la droite dans la deuxième ville de France. Elle est en tête après le deuxième tour du scrutin municipal, qui toutefois n'est pas joué dans la ville. On vous explique. Un fait acquis ce matin, c'est le coup de force des écologistes qui renversent tout à Bordeaux, Strasbourg, mais aussi Lyon. Coup double même à Lyon, ils gagnent la ville et la métropole.
C'est un fort investissement dans les transports en commun. On va faire plus d'espace pour les piétons, végétaliser la ville. On va essayer de lancer en effet la plupart des choses dans les 6 mois.
Dans ce journal, nous allons détailler ensemble les résultats, la réélection d'Édouard Philippe au Havre qui ne masque pas l'échec du mouvement présidentiel, Martine Aubry qui passe sur le fil à Lille. Tout cela marqué par une abstention historique. Et peut-être dès aujourd'hui une première réponse d'Emmanuel Macron à cette poussée verte. Il reçoit les 150 membres de la Convention citoyenne pour le climat. Et puis dans l'actualité également, rideau sur Fessenheim, extinction de la centrale nucléaire la nuit prochaine, un coup dur pour l'économie locale.
Tout ce qui a fait notre raison de travailler et d'être durant toutes ces années, tout tombe en une fois. C'est notre vie qui tombe, hein. Plus qu'un arrêt d'une centrale nucléaire, c'est un arrêt humain.
Juste après ce journal, dessine-moi un mouton. Le 29 juin, c'est la journée mondiale du Petit Prince. On va en parler avec mon invité inattendu, ça fera du bien, l'auteur Éric-Emmanuel Schmitt. 6h25, le meilleur et le pire des réseaux sociaux avec Paul Lassène. Retour sur L'Oréal, au cœur d'une polémique après avoir fait retirer la mention blanchissant de certains de ses produits. Il est 6h01 sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Mathieu Bellière, Jérôme Lacroix.
La poussée est historique. Jamais les écologistes en France n'ont dirigé autant de grandes villes. Ils sont les grands vainqueurs du scrutin municipal après le deuxième tour hier. Des bastions tombent, Lyon, Bordeaux, Strasbourg. Nous allons dans un instant détailler tout cela ville par ville. Mais d'abord, direction Marseille, où là aussi, les écolos et la gauche ont fait fort, mais il y a encore du suspense.
La deuxième ville de France va-t-elle basculer à gauche? Michel Rubirola, écologiste à la tête du Printemps marseillais, liste d'Union des Gauches, est arrivé en tête devant Martine Vassal, héritière de Jean-Claude Godin. Mais à Marseille, l'élection se joue par secteur. La majorité de la gauche n'est que relative ce matin. La droite espère renverser le verdict des urnes vendredi, lors de l'élection du conseil municipal.
Pas de quoi mettre l'enthousiasme des militants de Michel Rubirola sous l'été noir. Ils entrevoient un nouvel horizon après 25 ans de règne de la droite incarné par Jean-Claude Godin. Nathalie Chevance.
Même si la victoire n'est que relative, les militants du printemps marseillais ont laissé exploser leur joie autour du Vieux-Port.
C'est là où on se rejoint tous pour fêter la victoire. On a gagné, quoi.
Et la victoire, elle se passe dans le cœur battant de Marseille.
Le changement, il est là, il est arrivé après 25 ans.
Des années de Godin, on pensait que ça allait jamais pouvoir s'arrêter. Et pourtant, là, enfin, il y a un souffle.
Le système Godin est à terre.
Avec une gauche, des écolos aux insoumis rassemblés derrière Michel Rubirola, 63 ans, militante écologiste, novice en politique, qui adresse son premier message.
La droite n'est plus en mesure de gouverner cette ville.
Sauf que le printemps marseillais devra nouer des alliances pour diriger la ville, mais les militants veulent croire à une nouvelle façon de faire de la politique.
Ouais, on verra bien. Après, c'est aussi, on va apprendre en marchant aussi. Je veux dire, tout n'est pas acquis. Et le plus important, c'est de changer les choses. On était en maltraitance depuis 25 ans. Le changement, des nouvelles têtes et des gens de la société civile, pas des professionnels de la politique.
Mais les tractations avec certains adversaires seront incontournables d'ici le troisième tour, l'élection du maire par le nouveau conseil municipal. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1.
À Bordeaux, la victoire des Verts est bien scellée. Pierre Urmic est le nouveau maire. Il déloge Nicolas Florian, candidat Les Républicains, battu malgré le soutien du prétendant de La République En Marche. Séisme politique dans la ville de Jacques Chaban-Delmas et Alain Juppé.
73 ans que la ville était à droite. 73 ans. Pierre Urmic y met fin, avocat de 65 ans. Il était dans l'opposition municipale depuis un quart de siècle. Et ce matin, il savoure.
J'ai été élu sur un programme. Et étant de tempérament déterminé, j'appliquerai ce programme. Ce programme, c'est de doter Bordeaux enfin de la transition écologique qu'elle mérite. De ne pas louper ce rendez-vous avec l'histoire. Mais en le faisant aussi, et cela nous a toujours guidés pendant notre campagne, dans un souci de justice sociale. Pas d'écologie sans justice sociale. Nous l'avons martelé pendant toute la campagne électorale. Nous continuerons à le marteler au Palais Rouen. Nous voulons réussir.
Pierre Urmic, nouveau maire Europe Écologie Les Verts de Bordeaux, micro Europe 1 de Stéphane Place à Lyon. Tout change aussi ce matin. La page Gérard Collomb, près de 20 ans, est refermée. Et le sceau qui scelle le chapitre, eh bien, il est vert. Les écologistes emportent la ville et la métropole lieu central du pouvoir local.
Deux nouveaux hommes forts dont vous allez peut-être découvrir les noms ce matin. Grégory Doucet qui est le nouveau maire et Bruno Bernard est le nouveau président de la métropole. Jean-Luc Boujon, on peut parler de grand chelem.
Un grand chelem réalisé par deux inconnus. Grégory Doucet, d'abord nouveau maire de Lyon. Ce père de famille de 46 ans, arrivé de Paris il y a une dizaine d'années, est un des responsables de l'association Handicap International. Et il y a 9 mois, personne ne le connaissait à Lyon. Idem pour son collègue Bruno Bernard, patron d'une entreprise de désamiantage de 25 salariés et désormais président de la puissante métropole de Lyon, 60 communes, 3,5 milliards d'euros de budget et des compétences ultra larges. Ensemble, ils détiennent donc tous les leviers pour changer radicalement le visage de Lyon. Et c'est bien ce que compte faire Bruno Bernard.
C'est un fort investissement dans les transports en commun, 3 milliards d'investissements pour que tout le monde puisse se déplacer sans polluer. On va faire plus d'espace pour les piétons, végétaliser la ville. On va essayer de lancer en effet la plupart des choses dans les 6 mois.
Pour Grégory Doucet, il y a une priorité à initier très vite.
C'est un réseau express vélo qui traversera bien sûr la ville mais aussi toute la métropole. C'est la ville qui sera 100% cyclable, ça veut dire du double sens cyclable partout parce qu'on aura passé la ville en zone 30. On va s'y attaquer tout de suite.
Les deux hommes se savent attendus au tournant. En concentrant tous les pouvoirs à Lyon, ils sont devenus en quelques heures la vitrine de l'écologie politique en France et n'ont donc pas le droit à l'erreur. Lyon, Jean-Luc Bougeon, Europe 1.
Il y avait beaucoup moins de suspense à Paris, comme Europe 1 vous l'annonçait dans un récent sondage. La maire PS sortante, Anne Hidalgo, l'emporte largement, environ 50% des suffrages. Et les écolos n'y sont pas non plus pour rien, puisqu'elle s'était alliée avec le vert David Belliard, Anne Hidalgo, qui s'est adressée hier soir à ses militants.
Merci Paris! Vous avez choisi l'espoir, vous avez choisi le rassemblement, vous avez choisi un Paris qui respire, un Paris plus agréable à vivre, une ville plus solidaire qui ne laisse personne sur le bord du chemin. Je veux remercier David Belliard ainsi que toutes les forces qui se sont unies dès le premier tour autour de notre projet et qui ont permis de constituer cette alliance écologique, sociale, humaniste pour l'avenir de Paris. Cette victoire a du sens parce qu'elle est collective.
Anne Hidalgo au micro Europe 1 de Claudia Bertram.
Un scrutin parisien marqué par le fiasco d'Agnès Buzyn. L'ancienne ministre arrive troisième entre 13 et 16% des suffrages selon les estimations. Un score insuffisant pour siéger au Conseil de Paris.
Rachida Dati arrive deuxième avec environ 32% des voix.
Les Verts ont tout de même essuyé quelques échecs. À Lille, le candidat Stéphane Bally manque de détrôner Martine Aubry. La maire sortante socialiste réélue pour un quatrième mandat, ça s'est joué à 227 voix près.
Et à Toulouse, le maire sortant Jean-Luc Moudenc n'a pas été emporté par cette vague verte. Cela montre ici que LR et le PS, les partis traditionnels, résistent plutôt bien. Les socialistes remportent Nancy mais conservent aussi Rennes, Nantes et Le Mans.
Déception du côté du Rassemblement National. Peu de villes conquises, mais un coup d'éclat. La victoire de Louis Alliot, élu à Perpignan, une ville de 120 000 habitants.
Du côté du mouvement de la majorité, la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, fait part de sa déception pour cette première confrontation au scrutin municipal. Il y avait beaucoup d'espoir pour le marcheur Alain Fontanel, mais c'est bien l'écologiste Jeanne Barseguian qui l'a emporté à Strasbourg.
La confortable victoire d'Édouard Philippe au Havre ne masque pas l'échec. Le Premier ministre réélu avec 59% des suffrages, il sort renforcé du scrutin alors qu'un remaniement au gouvernement est imminent. Il doit s'entretenir ce matin en tête-à-tête avec Emmanuel Macron.
Et ce matin, Europe 1 vous révèle un sondage IFOP exclusif avec La Tribune à la question « À quelle personnalité faites-vous confiance pour réinventer la France ?» Vous répondez Édouard Philippe à 45%, Nicolas Hulot et Didier Raoult complètent le podium.
Nous le révélons ce matin et nous en parlerons avec Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP à 7h40 ce matin. Et nous le révélons, sachez simplement qu'Édouard Philippe et Emmanuel Macron l'entendent aussi pour la première fois ce matin sur Europe 1.
Rappelons que ce scrutin s'est tenu dans un contexte de très forte abstention, autour des 60%, c'est du jamais vu et sans doute dû en partie aux craintes liées au coronavirus.
Europe 1, il est 6h08.
Et dès ce matin, une possible première réponse d'Emmanuel Macron à cette poussée verte. Les 150 membres de la Convention citoyenne sont reçus à l'Élysée. Le chef de l'État entend leur apporter des réponses fortes à la hauteur des attentes, fait savoir l'Élysée.
149 propositions, dont l'abaissement de la vitesse maximale à 110 km à l'heure sur autoroute, qui a fait beaucoup parler évidemment la semaine dernière, mais aussi l'introduction d'un crime d'écocide via référendum.
Alors ça, ce sont les idées sur le papier, mais seraient-elles réellement applicables? Vous avez enquêté, Romain Oquet.
S'il y a bien une proposition épineuse, c'est l'instauration des 110 km/h sur autoroute. Un souhait de la Convention citoyenne, un gain environnemental, mais un terrain miné pour le gouvernement qui n'a pas oublié le traumatisme des 80 km/h. Il y a 2 ans, la réduction de la vitesse sur les axes secondaires avait provoqué la colère des Gilets jaunes. Au ministère des Transports, transports. Elisabeth Borne reconnaît que le sujet est sensible et l'exécutif ne compte pas risquer une nouvelle fois de se mettre à dos une partie de l'opinion publique. Un autre projet a du plomb dans l'aile, la création du crime d'écocide. Cette sanction pour atteinte à l'environnement est cette fois enterrée par la garde des Sceaux. Pour Nicole Belloubet, cette proposition n'est pas légale car il est impossible de soumettre ce genre de mesure à un référendum, en clair de demander à la population de se prononcer sur des sanctions pénales. Deux idées fortes qui tombent. Quant aux autres propositions, Emmanuel Macron reste prudent. Le travail de la Convention est remarquable, a salué le président, avant de préciser qu'il n'y aurait pas de référendum sans consultation du Parlement.
Les informations pour Europe 1 de Romain Oquet. Dans l'actualité également, la fin de la centrale nucléaire de Fessenheim en Alsace, la plus ancienne de France, 43 ans d'activité.
La nuit prochaine, à partir de 23h30, extinction du second réacteur. Une victoire pour les anti-nucléaires, mais c'est aussi un coup dur pour les salariés et pour les habitants de Fessenheim. La région perd l'un de ses pôles économiques.
Reportage sur place, Jean-Jacques Herry.
J'ai toujours connu, la centrale est rentrée dans le paysage.
Guy est né à Fessenheim, il a vu la centrale devenir le cœur de ce qui n'était alors qu'un village lors de son inauguration en 1978.
Et moi j'ai beaucoup de copains qui travaillent donc à la centrale. Moi je regrette un petit peu que cette centrale elle ferme par rapport à l'emploi, c'est catastrophique.
Sur les grilles de la centrale, des banderoles parlent d'une infrastructure sacrifiée. Elle est sûre alors qu'elle dure, peut-on lire. Pour Alain Besserer, délégué syndical FO, ce soir c'est plus qu'un réacteur qu'on arrête.
Tout ce qui a fait notre raison d'être durant toutes ces années, tout tombe en une fois. C'est notre vie qui tombe. Hein.
La vie des employés EDF qui tombe et un peu celle des autres aussi, car au total, ce sont les revenus de 5000 personnes qui dépendent de la centrale. Laurent Schwein, restaurateur à Fessenheim, apparaît résigné.
C'était notre gagne-pain. La boulangerie, les bouchers, la Super U, les restaurants, on vivait essentiellement de la centrale. C'est déjà du passé pour nous. Il y a 2 ans, quand on a fait des manifestations, on a essayé de maintenir et ça n'a pas marché. Maintenant, c'est du acquis, c'est comme ça.
Cet été, 150 familles devraient quitter la commune. Certaines sont déjà partis, laissant quelques maisons vides, facilement repérables à la hauteur de leur pelouse, qui n'a parfois pas été tondue depuis plusieurs mois. Fessenheim, Jean-Jacques Herry, Europe 1.
Et la centrale sera ensuite démantelée. Le site EPR de Flamanville, dans la Manche, est censé prendre le relais de production d'électricité. Mais sa mise en service ne cesse d'être repoussée pour des problèmes techniques prévus en 2012. Ce sera au mieux en 2023.
Vous vous souvenez, pendant le confinement, ces personnels soignants pris à partie par leurs voisins par peur d'une contagion au coronavirus. Tout à l'heure, devant le tribunal correctionnel de Montpellier, un couple de septuagénaires sera justement jugé pour avoir harcelé une infirmière du CHU de Montpellier qui avait abrité sa mère et sa fille à son domicile.
Harcelé au point de quitter les lieux, Chloé Triomphe.
C'est quoi tous ces étrangers? Si vous voulez choper le coronavirus, allez l'attraper ailleurs, mais pas chez moi. Quand est-ce que cette smala va déguerpir?
Ce sont quelques-unes des amabilités lancées par le couple à la famille de Mélina, infirmière qui avait choisi d'abriter ses proches chez elle et de partir habiter seule dans le studio de sa fille, près de l'hôpital, où elle travaillait de nuit dans l'intention de s'isoler au maximum. Mais ses voisins, également ses propriétaires, ont harcelé ses proches, comme l'explique son avocat, maître Rémi Lévy.
Ça a été quelque chose de violent à vivre, le bruit, coupure d'eau, le mari de Madame Verg qui démarre sa voiture et qui la laisse tourner avec le pot d'échappement à hauteur des fenêtres du rez-de-chaussée. En fait, ils voulaient clairement que tout le monde parte. Ils ont même voulu facturer, entre guillemets, la désinfection de l'appartement au bout de la semaine.
Aujourd'hui, Mélina ne souhaite pas la vengeance, mais le remboursement de ses frais de déménagement en urgence et peut-être aussi, confie son avocat, quelques mots d'excuses.
Le sport et c'est original, ambiance volcanique à Marseille autour de l'OM, le club de foot. L'ancien patron du club de rugby de Toulon, Mourad Boudjelal, vise le rachat du club via des fonds du Moyen-Orient. L'opération pourrait porter sur en tout 700 millions d'euros.
Mais pour l'instant, les actuels propriétaires de l'OM ferment la porte, Christophe Lamar.
L'opération rachat entre dans une nouvelle phase. Dans l'entourage de Mourad Boudjelal, on assure qu'une banque d'affaires pourrait être désignée cette semaine. Ce ne sera pas Rothschild. L'institution dément formellement être impliquée dans ce dossier. L'ancien président du rugby club de Toulon veut aller vite, occuper le terrain pour décourager des projets concurrents et mettre la pression sur la direction de l'OM. Médiatiquement, le coup est réussi. On ne parle que de lui, mais Mourad Boudjelal l'assure. Marseille mérite qu'on s'y intéresse.
On est quand même conscient du monument et on est conscient des moyens qu'il faut pour être à la hauteur du monument. Je pense que je peux porter ce projet, c'est excitant, mais ça fait peur. Mais pour l'instant, l'étape 1, c'est McCourt qui a la réponse.
Et pour l'instant, le propriétaire Franck McCourt reste silencieux. Quant à la direction du club, le président Jacques-Henri Hérault a opposé une fin de non-recevoir en une phrase. Marseille n'est pas à vendre.
Et puis ça se confirme, Mathieu, il est cette saison le bon génie du Real Madrid, Karim Benzema, l'attaquant français encore très fort hier soir, victoire 1-0 contre l'Espagnol Barcelone en championnat d'Espagne. Benzema, pas buteur mais passeur décisif sur l'unique but, une passe spectaculaire, une talonnade qui a trompé les défenseurs et permis le but plutôt facile d'un coéquipier. Le Real, premier du classement ce matin, 2 points d'avance devant Barcelone.
Merci Jérôme Lacroix, c'était le journal de 6h sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous, à 6h30 nous retrouverons tout à l'heure François Geffrier.
Europe 1. La matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard, votre invité dans un instant.
Et dans un instant, on va... Vous avez tous lu Le Petit Prince à l'école, à la maison, on vous l'a lu peut-être avant de vous coucher. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du Petit Prince, première du nom.
Suis-moi, là où je sais où, suis-moi.
Ce que vous entendez, c'est Camille qui chantait sur la musique d'Hans Zimmer pour le film d'animation en 2005. Aujourd'hui, journée mondiale du Petit Prince, pourquoi ? Parce que ce sont les 120 ans de la naissance d'Antoine de Saint-Exupéry, mon invité inattendu dans un instant, un fan du Petit Prince, l'auteur Éric-Emmanuel Schmitt. À tout de suite.
Europe 1, il est 6h16, c'est l'heure de l'invité inattendu. Tous les matins, un sujet de l'actualité, une voix que l'on n'attend pas pour en parler.
Et c'est aujourd'hui une journée particulière pour les nostalgiques de leurs livres d'enfants. C'est aujourd'hui la première journée mondiale du Petit Prince. Antoine de Saint-Exupéry est né le 29 juin 1900, il y a 120 ans. Et pour en parler, un homme qui en a fait sa référence, son livre préféré. On va en parler de ce Petit Prince que vous connaissez tous.
Et avec votre invité inattendu, Mathieu Béliard, l'auteur, romancier, Éric-Emmanuel Schmitt.
Bonjour Éric-Emmanuel Schmitt.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Alors je ne sais pas si je démarre par le début ou la fin. Tiens, la fin. Quand avez-vous lu ou parcouru le Petit Prince pour la dernière fois ?
C'était il y a 2 ans, parce que mes amis savent que j'adore ce texte et on m'avait offert un pop-up, vous savez, un livre qui est en relief et qui s'ouvre. Et j'ai éprouvé un émerveillement d'enfant en découvrant le pop-up. Et j'ai relu le texte et là j'ai éprouvé un émerveillement d'adulte, puisque j'ai trouvé le texte encore plus profond que dans mes souvenirs.
Donc ça, c'est la dernière rencontre, la toute première rencontre avec le Petit Prince, Éric-Emmanuel Schmitt.
La voix de Gérard Philippe, la voix de cet aviateur qui échoue dans le désert, le sentiment de la solitude et puis cette rencontre fabuleuse. Donc ça a d'abord été une histoire qui m'a été narrée par le grand comédien et tout de suite après, j'ai lu le livre où il y a encore plus de choses que dans la version de Gérard Philippe. Et j'avais 10 ans et c'était parti pour la vie. Parce que ce livre, il m'a ouvert des horizons différents à chaque époque de ma vie.
J'ai vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur, et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. Alors vous imaginez ma surprise au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillé.
S'il vous plaît, dessine-moi un mouton.
À chaque époque, une lecture différente ou à chaque époque, un rendez-vous avec cette œuvre peut-être intemporelle, peut-être même un peu naïve ?
Quand j'avais 10 ans, ce que j'apprenais en lisant Le Petit Prince, c'était l'importance du lien. L'histoire du renard qui demande au petit prince d'être apprivoisé et puis qui lui dit aussi c'est parce que tu vas m'apprivoiser que je vais t'aimer que je serai triste quand tu partiras. Le lien avec la rose, c'est-à-dire avec la femme, tout ça ça m'intéressait l'enfant de 10 ans que j'étais. Et puis plus tard, d'autres aspects du texte me sont parus, la recherche du sens, l'invisible, l'essentiel est invisible. Donc le texte est tellement spirituel que au fur et à mesure de sa propre progression spirituelle, on trouve des pépites et des diamants qui peuvent nourrir notre réflexion.
D'ailleurs, vous dites ce texte est un diamant. Est-ce que vous pouvez développer ?
Vous savez, c'est un conte philosophique, mais écrit d'une façon poétique. C'est-à-dire que les formules sont toujours assez aussi claires que mystérieuses. L'essentiel est invisible pour les yeux.
L'essentiel est invisible pour les yeux.
C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante.
C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose.
Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose.
Je suis responsable de ma rose.
C'est une formule très très simple, mais parce qu'elle est simple, elle laisse de la place au lecteur pour qu'il la médite,
pour qu'il l'emmène avec lui, cette phrase, et que tout au long de sa vie, il en tire une substance. La force du Petit Prince, c'est de réunir au fond l'ancien et le nouveau. L'ancien parce que c'est un conte, comme d'autres contes qu'on a entendus, et le nouveau parce que c'est un conte philosophique, c'est-à-dire avec un vrai propos. Et donc Saint-Exupéry a réussi à marier l'ancien et le moderne. C'est sans doute ce qui fait que ce texte est une déflagration à travers le monde. C'est plus qu'un livre, Le Petit Prince. C'est un chemin initiatique. Le Petit Prince nous apprend à nous étonner. C'est très important de s'étonner. Il nous apprend aussi l'humilité, c'est-à-dire savoir qu'on ne sait pas. Il nous propose un vrai chemin de vie. Le Petit Prince rencontre des personnages qu'on trouve très drôles quand on est enfant et en même temps on comprend le message. Il y a un roi vaniteux, il y a un ivrogne qui boit pour oublier qu'il boit, il y a quelqu'un qui fait des calculs pour faire des calculs. Il nous montre toute l'absurdité des hommes quand ils oublient qu'ils ont une dimension spirituelle et morale. Et puis je crois que ce qui est international dans Le Petit Prince, c'est le primat du cœur sur la raison. On ne voit bien qu'avec le cœur, nous dit Le Petit Prince. Et en cela, pour moi d'ailleurs, le Petit Prince est assez proche des évangiles, parce qu'il y a d'incroyables points communs.
Vous comparez Le Petit Prince à un évangile ?
Ah, clairement. Il y a la dimension initiatique, la dimension spirituelle, et une façon de fréquenter le mystère de la vie avec plénitude et confiance. C'est à cela que nous appelle le Petit Prince, c'est à cela qu'appellent les évangiles. Donc c'est, je pense, la haute spiritualité du Petit Prince qui a fait son trajet à travers les langues et les civilisations.
Éric-Emmanuel Schmitt, pour terminer, que dites-vous ce matin à un de nos auditeurs qui n'aurait jamais lu Le Petit Prince ?
Quelle chance ! Vous allez pouvoir découvrir une merveille. Et puis, à ceux qui l'ont lu, je dis relisez-le, parce que le livre a tellement de couches que vous allez en découvrir de nouvelles. Et à ceux qui prétendent ne pas aimer ce texte ou qui le trouvent trop naïf ou voire un peu niais, j'ai envie de dire, vous savez, c'est la lecture qui fait le livre. Un imbécile trouvera toujours un livre imbécile et un homme intelligent trouvera l'intelligence dans un livre. Ce qui est impressionnant dans l'œuvre de Saint-Exupéry, c'est la simplicité. Il n'y a rien de plus impressionnant que la simplicité. Parce que la simplicité, ça n'a rien à voir avec le simplisme. Le simplisme, c'est l'ignorance des difficultés. La simplicité, c'est la résolution des simplicités. Saint-Exupéry est arrivé à ça. Pour moi, Saint-Exupéry a quelque chose de Mozart. Il est à la fois simple et savant, aimable et profond, lumineux, même pour évoquer l'obscur.
Éric-Emmanuel Schmitt, on vous retrouve au théâtre de la Citadelle de Sisteron au mois d'août.
Oui, le 10 août et ensuite le 4 septembre à Paris. Au théâtre Rive Gauche pour Madame Pilinska et le secret de Chopin.
Merci mille fois d'avoir partagé avec les auditeurs d'Europe 1 ce matin votre passion pour Le Petit Prince.
Merci à vous.
Bonne journée.
Europe 1. Le meilleur et le pire des réseaux sociaux avec L'Oréal au cœur d'une polémique après avoir fait retirer la mention blanchissant de certains de ses produits. A tout de suite avec Paul Lassen sur Europe 1. Yeah. Europe 1, il est 6h24, vous écoutez Mathieu Béliard.
Je vais attendre 15 secondes si vous le voulez bien, puisque vous le savez, on a un rendez-vous avec les réseaux sociaux, avec un certain Paul Lassen tous les matins à 6h25. Bonjour Paul Lassen.
Il est 6h24 encore, mais
et
bonjour Mathieu.
8 secondes, merci d'être avec nous, le meilleur et le pire des réseaux sociaux tous les matins. On parle beaucoup des municipales, mais il n'y a pas que ça dans l'actualité évidemment. Et ce week-end, ce mouvement de contestation qui a émergé sur les réseaux suite à une décision du groupe L'Oréal.
Oui, le géant de la cosmétique a annoncé samedi qu'il allait modifier la description de ses produits en supprimant des mots comme blanchissant ou clair. Sauf que cette décision n'a pas eu l'effet escompté. Tout le week-end, des milliers de tweets sur le hashtag J'arrête L'Oréal et des centaines de vidéos. Alors ce bruit que vous entendez, c'est des tubes de crème ou des pots de crème jetés à la poubelle. Allez hop, tous mes produits L'Oréal à la poubelle parce qu'ils le valent bien. Une réaction allergique épidermique à la bêtise, écrit Antonin. Pour Karen, cette démarche est une démarche raciste. Je suis blanche, je ne fais donc plus partie de votre cœur de cible. J'achèterai mon maquillage ailleurs à l'avenir. Pour un internaute, cette stratégie commerciale est une catastrophe. Faut arrêter les coups marketing comme ça, les conneries, Ça suffit. Jérémia pense, lui, à celui qui a eu cette triste idée. Hier, en se couchant, un mec du service comme de L'Oréal se pensait un génie. Ce matin, il ira pointer à Pôle emploi pour avoir fait perdre des millions d'euros à sa boîte à cause d'un bad buzz monumental. Enfin, Campagnol propose de changer leur slogan pour être plus d'actualité. J'arrête L'Oréal parce qu'ils ne valent rien.
Alors, on entend beaucoup de réactions négatives contre cette décision, mais pour certains internautes, ce combat n'est pas le plus légitime.
Les susceptibles, on vous voit, journée mondiale anti-L'Oréal, manif générale sur Paris, création d'associations, boycott général, c'est n'importe quoi. Écrit un internaute assez remonté. Parce qu'en effet, Mathieu, beaucoup d'internautes considèrent que ce combat n'est pas le bon et quitte à se battre contre L'Oréal, autant le faire pour de vrais combats. Vous devriez les boycotter pour les bonnes raisons, comme les tests sur les animaux, et non pour ces mots retirés de ces produits. Vous êtes aussi répugnant que cette firme, écrit Manu. Même son cloche chez cet internaute. L'Oréal teste sur les animaux, c'est OK. L'Oréal pollue la planète, c'est OK. L'Oréal exploite les pays pauvres, OK aussi. Mais L'Oréal retire les mots blanc et clair, c'est mort. Vous êtes ridicule.
Et justement, pour détendre l'atmosphère, certains ont voulu tourner ces revendications au ridicule.
Oui, beaucoup d'internautes ont préféré en rire. Pigeon, par exemple, c'est son pseudo sur Twitter, se demande si le massif du Mont Blanc va lui aussi devoir changer de nom dans le même registre. Certains proposent de renommer les célébrités. Comment va-t-on devoir appeler Michel Blanc, Laurent Blanc ou Gérard Blanc maintenant? J'attends vos meilleures idées, écrit un internaute. Yann, sur Twitter, va encore plus loin et propose de s'attaquer au patrimoine français. Quand les entreprises font le jeu des extrémistes, du coup, la prochaine étape, je propose de renommer le vin blanc. Réponse immédiate de Sergent Garcia.
Sergent Garcia, ouais, j'adore les pseudonymes
comment,
sur Twitter.
Comment je vais faire moi maintenant pour commander mon petit blanc du matin au bistrot?
Attendez, ça vaut pour le petit blanc comme le petit noir au bistrot. Au café, il y en a quelques-uns comme ça, s'il faut revoir tout le vocabulaire, on a 2h30 devant nous avant la fin de la matinée.
Je reviens à 9h.
Merci Paul Lassène. Le meilleur et le pire des réseaux sociaux, c'est tous les matins sur Europe 1. Il est 6h28.
Vous écoutez Mathieu Béliard sur Europe 1.
Et dans quelques instants, notez-le bien, je suis très heureux de recevoir Bertrand Piccard après le journal de 6h30 ce matin, puisqu'avec Bertrand Piccard, l'explorateur écologiste, nous allons revenir à la fois sur cette vague verte qu'on a vue au municipal, mais aussi sur la Convention citoyenne pour le climat. Il ne s'est pas exprimé depuis que les 150 citoyens ont remis leurs 149 propositions. Eux seront reçus par Emmanuel Macron à l'Élysée aujourd'hui. Du concret avec Bertrand Piccard, qui a des solutions lui aussi, qui s'engage pour la planète tout en préservant l'économie. Un discours à entendre ce matin, c'est à 6h40 sur Europe 1 après le journal. Mais pour l'heure, Laurent Cabrol est avec nous, il est 6h28. Bonjour Laurent.
Bonjour Mathieu, s'il te plaît.
Rebonjour, c'est un réflexe, mais rebonjour Laurent, c'est parlé il y a une demi-heure.
S'il te plaît Mathieu, dessine-moi un soleil.
Ah, on en a quand même.
Dessine-moi un soleil pour aujourd'hui.
Alors, parce un grand rond avec des petits traits qui partent autour. J'ai pas changé depuis mes 6 ans.
L'évolution est flagrante. Ce matin, il y a beaucoup de nuages. Il y a même quelques petites pluies en Sologne, du côté de Guéret, de Vichy. Mais l'évolution ira nous conduire directement vers une journée relativement ensoleillée. Je dis relativement parce que le soleil sera toujours, disons, contesté par quelques nuages. Mais il sera là sur la Lorraine, le Berry, la région parisienne, le Massif central, l'Aquitaine, la Vendée et la Bretagne. Les ondées présentes actuellement sur l'Alsace, le Jura, les Alpes du Nord vont s'échapper. Et des nuages sans excès sur le littoral de la Manche. Voilà les grands ligne et avec des vents d'ouest sous le littoral de la Manche, mais beaucoup de soleil sur le littoral à méditerranéen. Les températures maximales aujourd'hui, 18 à Brest, 20 degrés à Lille, 21 à Caen, à Biarritz, 22 à Nevers-Épinal, Strasbourg, Bourges, Besançon, Paris entre 23 et 25, 29 à Grenoble, 32 à Marseille et 34 degrés à Alès. Et cette semaine sera modérément ensoleillée, mais très agréable dans l'ensemble.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. François Geffrier est avec nous. Bonjour François.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un nouveau journal sur Europe 1, il est 6h30.
Je n'ai peut-être pas apporté les bonnes réponses, mais c'est avec conviction qu'on l'a fait. C'est une épreuve.
Le goût amer de la défaite pour Nicolas Florian à Bordeaux, le successeur d'Alain Juppé, battu par les écologistes comme dans de nombreuses villes hier soir. C'est l'une des seules victoires de la majorité, la réélection d'Édouard Philippe au Havre. Ses administrés aimeraient bien le voir quitter Matignon. Et puis, quel soutien pour les petits commerçants après la crise sanitaire? Les informations d'Europe 1 sur les aides qui seront précisées ce soir.
Question de droit et réponse de l'avocat d'Europe 1. Les entreprises ont-elles le droit de privilégier les enfants de leurs salariés pour les jobs d'été? Roland Pérez après le journal. À 6h40, je vous l'ai dit, Bertrand Piccard, président de Solar Impulse. Et puis nous vous emmenons au Japon, en Pologne et au Brésil dans la revue de presse internationale avant 7h. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1, il est 6h31.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
73 ans de droite et voilà Bordeaux qui bascule à gauche chez les Verts à la faveur de ce second tour. Même l'anticapitaliste Philippe Poutou accède au conseil municipal.
Stéphane Place est le correspondant d'Europe 1 à Bordeaux. C'est une claque pour le maire sortant Nicolas Florian et pour son mentor Alain Juppé.
De la tristesse, c'est tout. Je n'ai pas de commentaires à faire sur les stratégies des uns et des autres. Il y a une vague verte en France, c'est ainsi. Et c'est la démocratie.
Avant même la proclamation officielle du résultat, Alain Juppé entérine la défaite de son héritier, le maire sortant LR, Nicolas Florian, battu par l'écologiste Pierre Urmic.
Fierté quand même d'avoir amené ici au pouvoir les forces qui sont autour de cette liste. Après une vie politique bordelaise plutôt monolithique ces 75 dernières années, cette victoire-là, nous l'assumerons sans arrogance. Ce programme, c'est de doter Bordeaux enfin de la transition écologique qu'elle mérite. De ne pas louper ce rendez-vous.
À pied, dans une cohue indescriptible, Pierre Urmic rejoint la cour de l'hôtel de ville. Nicolas Florian, lui, s'apprête à céder son fauteuil de maire.
Une nouvelle page va s'ouvrir pour Bordeaux. Je n'ai peut-être pas apporté les bonnes réponses, mais c'est avec conviction qu'on l'a fait. C'est une épreuve. Je voudrais remercier Alain Juppé de la confiance qui a été la sienne.
Deux points d'écart et une bascule historique après un règne sans partage de la droite depuis plus de 70 ans. Bordeaux, Stéphane Place, Europe 1.
Autre ville emportée par les Verts, Strasbourg, Poitiers, Annecy, Tours, Metz, Lyon, ainsi que la métropole lyonnaise.
Alors pourquoi cette vague verte dont parlait Alain Juppé à l'instant? Pour Europe 1, Hélène Terzian a pu voir à Besançon, également conquise par les Verts, le rôle joué aussi par les alliances.
Je suis fière qu'on nous donne cette possibilité d'aller vers un territoire de transition, que cette vague se mette en place enfin.
Cette vague verte est aussi arrivée jusqu'à Besançon grâce au rose des socialistes, au rouge des communistes. Mais si Dominique a mis le bulletin de l'écologiste Anne Vigneault dans l'urne, c'est avant tout par conviction.
Il y a une urgence. Ce capitalisme débordant qui envahit tout, je pense qu'à un moment donné, il faut dire stop et puis regarder un peu ce qui se passe autour de nous.
Fini le temps où certains comme Kim prenaient les écolos pour des fantaisistes. Maintenant, pour lui, voter vert, c'est voter utile.
Pendant longtemps, on pensait qu'effectivement, c'était des projets un petit peu en l'air. Les Verts venaient derrière les socialistes pour les accompagner. Et puis là, maintenant, les socialistes ont devoir d'écouter ce que disent les Verts. Et finalement, ils avaient raison. Ils sont dans cette réalité de pouvoir agir dès à présent et dès maintenant.
Surtout après la crise sanitaire que l'on vient de vivre, surenchérit Julien.
Mieux valait être confiné dans des villes qui étaient vertes, avec des espaces verts, où on pouvait quand même un minimum sortir, plutôt que des villes ultra urbanisées, très polluées.
Sans compter que l'écologie crée de l'innovation et donc de l'emploi, me confiait un bisontin. On n'est pas dans la décroissance, mais bien tourné vers l'avenir.
Et nous serons à Besançon dans le journal de 7h à nouveau avec Anne Vigneault, donc la nouvelle maire Europe Écologie Les Verts de Besançon. 8h15, ne manquez pas le rendez-vous. Yannick Jadot, l'eurodéputé vert, au micro de Sonia Mabrouk, qui répondra ensuite à vos questions sur le hashtag Europe 1.
Soirée difficile pour La République En Marche, en particulier à Paris, où Agnès Buzyn obtient environ 14% des voix et ne siégera pas au Conseil de Paris. En revanche, le Premier ministre Édouard Philippe a été réélu au Havre, une commune où ses partisans, interrogés pour Europe 1 par Justin Morin, aimeraient bien le voir définitivement de retour.
Dans le hall, Xavier ne quitte pas des yeux le visage de son champion affiché sur les écrans. Les cris de joie se mêlent aux insultes des opposants, mais lui s'en moque, c'est gagné.
Mais c'est une folie, le Havre, c'est Édouard, il faut le soutenir.
Maintenant, il doit être où alors, Édouard Philippe? Au Havre ou à Paris?
Au Havre, monsieur, au Havre. Bien sûr, on ne peut pas faire les deux, on est entièrement au Havre, point barre. Avec nous, et nous serons avec lui.
Tout près, Evelyne et Jean-Charles, couple de retraités, applaudissent aussi leur mère.
Il y viendra.
Il n'a pas fini avec les retraites, il y a eu de la tempête. C'est un homme solide, il a tenu la route même, c'est bien qu'il soit là.
Et tant que ça ne sera pas le cas, ses opposants comme Gaëtan lui reprocheront de les avoir trompés.
Ça va être un fantôme ici au Havre, on ne le verra jamais. Donc là, il va faire quoi?
En repartant, Édouard Philippe s'est arrêté pour quelques selfies.
Le Premier ministre, vous allez à Paris ?
Question ignorée par le Premier ministre jusqu'à ce qu'il disparaisse dans sa voiture. Au Havre, Justin Morin, Europe 1.
Édouard Philippe qui ressort en tête d'un sondage Europe 1 que nous publions ce matin avec la Tribune, sondage IFOP. À quelle personnalité faites-vous confiance pour réinventer la France ? 45% des sondés répondent Édouard Philippe devant Nicolas Hulot et Didier Raoult. Sondage à retrouver comme tous les résultats des municipales sur europe1.fr.
Il est 6h35.
Un troisième budget rectificatif étudié ce soir à l'Assemblée nationale. Après l'aéronautique, l'automobile et le tourisme, les petits commerces vont aussi être soutenus.
Oui, information Europe 1, Carole Ferry nous révèle ce matin les aides qui sont prévues.
Ce sera un plan en trois phases. Tout d'abord, un soutien à la trésorerie. Les petits commerçants en difficulté pourront continuer à bénéficier du fonds de solidarité et du chômage partiel remboursé à 100%. L'étude des dossiers pourrait toutefois se faire au cas par cas. Deuxième phase, un plan de soutien ambitieux de développement du numérique avec des formations gratuites pour aider les petits commerçants indépendants à franchir le pas de la digitalisation, leur apprendre à communiquer sur les réseaux sociaux, à créer un site internet pour vendre en ligne ou encore à inventer des applications pour alerter sur les bons plans ou promotions. L'idée, c'est vraiment d'aider les commerces de proximité à mieux résister à la concurrence des géants du web. Le dernier volet vise à redynamiser les territoires avec des campagnes nationales autour de la semaine du commerce, par exemple, ou la promotion d'initiatives locales comme celle de Tours qui lance cet été les chèques vitrines de Tours, des chèques cadeaux à offrir pour un anniversaire, par exemple, et à dépenser dans tous les commerces indépendants du centre-ville.
La centrale nucléaire de Fessenheim va être définitivement mise à l'arrêt la nuit prochaine.
Oui, en février dernier, c'était le premier réacteur. C'est désormais au tour du second ce soir, 23h30. Et alors que l'EPR de Flamanville était censé prendre la relève. Alors où en est-on, Élise Dangean ?
On est loin, très loin, d'une mise en service de l'EPR de Flamanville. Prévue initialement en 2012, maintes et maintes fois retardée, elle n'aura pas lieu avant au mieux 2023. Pourtant, les différents tests menés ces derniers mois ont été concluants. Ce qui bloque, ce sont les soudures jugées non conformes par l'autorité de sûreté nucléaire. Sauf que pour entamer les travaux de réparation à l'aide d'un robot, EDF a besoin du feu vert de l'ASN, attendu d'ici la fin de l'année. Pendant ce temps, le coût du chantier ne cesse d'augmenter, 12 milliards d'euros contre 3,5 prévus initialement. Reste désormais à savoir quel sera l'impact du coronavirus sur le calendrier. On est en train de regarder, dit-on à EDF. L'épidémie pourrait en tout cas avoir un impact sur l'approvisionnement électrique l'hiver prochain. Une situation qui nécessitera une très grande vigilance, met en garde RTE. D'autant qu'avec la fermeture de Fessenheim, ce sont 1800 MW de puissance électrique perdu.
Élise Dangean du service économie d'Europe 1.
Merci beaucoup François Geffrier, c'était le journal de 6h sur Europe 1, il est 6h38.
Votre question de droit trouve sa réponse avec l'expert juridique d'Europe 1, l'avocat Roland Pérez.
Bonjour Roland.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors que les congés d'été des salariés s'organisent en tenant compte des exigences des employeurs en raison de la crise sanitaire, bien sûr, une question de droit peut se poser, nous la posons ce matin. Les entreprises sont-elles en droit de privilégier le recrutement des enfants de leurs salariés pour occuper les jobs d'été ?
Il faut effectivement penser à remplacer les salariés, Mathieu, qui vont commencer à partir dans quelques jours en congé payé. Et évidemment, il est tentant de proposer pour un mois ou deux nos gamins en guise de salariés temporaires. Et pourtant, le Code du travail le déconseille vivement. Je m'explique, Mathieu. Pour recruter, on doit mettre sur le même rang d'égalité tous les salariés potentiels présentant un profil adéquat, que ce soit par petites annonces ou sur candidature spontanée. Et si l'on privilégie les enfants des salariés de l'entreprise, on contrevient, et là je vais faire un peu mon savant Mathieu ce matin, à l'article L1132-1 du Code du travail qui énonce qu'en vertu du principe de non-discrimination, l'on ne peut pas écarter d'une procédure de recrutement une personne en raison de sa situation de famille. En l'occurrence, le fait que le jeune pris temporairement pour un job d'été ne soit pas apparenté à un salarié de l'entreprise ne doit pas être un critère à retenir. En droit, il s'agit d'une rupture de l'égalité des chances dans l'accès à l'emploi. Et il faut donc garder en tête lors du recrutement un principe de neutralité, ce qui n'est pas, on le sait, toujours le cas en pratique.
Et quid des stages en entreprise ? Là aussi, les salariés ne peuvent pas placer leurs enfants dans les entreprises où ils travaillent ?
Je vais vous étonner, mais là aussi Mathieu, le même article sur la non-discrimination en matière de recrutement trouve à s'appliquer, ce qui paraît totalement dingue, car c'est souvent vers son employeur ou des proches que l'on se tourne pour placer nos enfants en stage. Et sachez que même pour une période de formation, le Code du travail le déconseille.
Merci beaucoup Roland Pérez. Tous les matins, une question de droit et la réponse de l'avocat d'Europe 1, Roland Pérez, en direct dans la matinale, juste après le journal de 6h30.
À 6h40, les acteurs de l'actualité en direct sur Europe 1, votre invité Mathieu Béliard et Bertrand Piccard, président de Solar Impulse.
Bonjour Bertrand Piccard.
Bonjour.
Quel plaisir de vous retrouver avec nous, avec les auditeurs d'Europe 1. Président de la Fondation Solar Impulse, c'est la version courte du CV. Explorateur, médecin, psychiatre, conférencier, essayiste. On se souvient bien sûr de votre tour du monde en ballon et de l'avion solaire Solar Impulse. Engagé pour la planète, ça résume aussi votre profil. Vous n'avez pas pris la parole depuis la fin des travaux de la Convention citoyenne pour le climat. Beaucoup de choses ce matin. Au regard de la vague verte dont nous parlons après le scrutin municipal français, le président Emmanuel Macron, quel accueil doit-il faire aux 150 citoyens de la Convention qu'il va rencontrer aujourd'hui ?
Eh bien, je pense que les résultats des municipales appuient énormément les résultats de cette Convention citoyenne. Cette Convention citoyenne, en fait, il faut voir que c'est quand même le président Macron qui l'a mise en place. Donc, c'était courageux de le faire. Et maintenant, il va avoir encore plus de moyens de l'appliquer, vu les résultats des élections de ce week-end. Donc, je dirais que la configuration est parfaite, et pour lui, et pour la France, et pour l'écologie.
Il y a encore besoin de courage, ou ça y est, le plus dur est fait. Il y a eu la convention, les travaux de la convention, le scrutin d'hier. Non, il faut encore du courage politique pour ces 149 propositions.
Oui, il faut du courage politique parce qu'en fait, les propositions sont très ambitieuses et vont très loin. En fait, elles vont beaucoup plus loin que ce que le monde politique aurait osé proposer lui-même. Prenez quelques exemples de changer toutes les chaudières au fioul, d'interdire la commercialisation de véhicules neufs qui sont très polluants, d'alimenter les navires dans les ports directement en électricité pour leur permettre de couper leurs moteurs, développer des filiales de biocarburant pour les avions, s'attaquer au gaspillage alimentaire, modifier les systèmes économiques pour être davantage dans l'économie circulaire, mettre des clauses environnementales dans les marchés publics. Mais tout ça, c'est une évidence absolue. C'est ce que les écologistes disent, mais pas seulement les écologistes. Ceux qui disent ça sont aussi tous ceux qui veulent relancer l'économie en rendant le monde beaucoup plus efficient. Parce qu'il faut bien voir une chose, l'efficience, c'est ce dont on a besoin aujourd'hui, autant pour l'environnement que pour protéger l'économie, puisque l'inefficience et le gaspillage actuel, ça coûte extrêmement cher.
Bertrand Piccard, vous êtes lancé un nouveau challenge, je le précise pour nos auditeurs, on en avait déjà parlé, moins technologique, peut-être plus citoyen par rapport à ce que vous proposiez, quoique moins technologique, ça dépend des solutions. Labelliser et promouvoir 1000 solutions efficientes, financièrement rentables pour protéger l'environnement. Je vais poser la question un peu simplement, mais l'enjeu c'est l'argent, il faut prouver que c'est rentable de préserver la planète, de changer notre modèle.
Écoutez, aujourd'hui, surtout après la crise du coronavirus, il faut prouver que c'est rentable parce qu'il y a toute une économie à remonter. Il y a énormément de gens qui souffrent professionnellement, qui ont perdu leur travail, des entreprises qui sont en train de faire faillite. Donc si vous les soutenez économiquement tout en les forçant à devenir plus efficientes, vous faites en même temps du rentable et en même temps de l'écologique. Et nous, à la Fondation Solar Impulse, c'est exactement ce qu'on fait en sélectionnant des solutions financièrement rentables pour protéger l'environnement. Et aujourd'hui, on en a déjà sélectionné 550. Ce qui veut dire qu'il y a 550 preuves que la protection de l'environnement est rentable pour les entreprises et pour les gouvernements et pour les citoyens. Donc en fait, on est là avec nos solutions, c'est celles de start-up dans le monde entier, de grandes entreprises aussi. Disons que nous sommes là avec toutes ces solutions pour appuyer toutes ces propositions de la Convention citoyenne et montrer que c'est possible, montrer que les solutions sont là et aider à leur implémentation. Parce que c'est ça qu'il faut faire maintenant, c'est que tous ces chantiers ouverts par la Convention citoyenne soient appliqués et que ce ne soit pas une utopie pour le futur, mais que ce soit vraiment quelque chose avec des solutions technologiques qui existent aujourd'hui.
Et vous faites bien de le dire, Bertrand Piccard, vous faites bien de le dire, parce que quand on entre dans le détail des propositions que vous mettez en avant, on peut faire facilement plein de parallèles avec les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, la rénovation énergétique, la question de la climatisation, dans les bureaux en particulier. Mais je voyais aussi que vous proposez une technologie de désherbage qui pourrait nous permettre de penser l'après-glyphosate, la problématique de la consommation, de l'emballage, la question des transports. Vous avez un dénominateur commun.
Mais complètement, complètement. Mais nous, on n'est pas parti du problème, comme la Convention citoyenne, on est parti des solutions qui existent. Et les centaines de solutions qui existent peuvent résoudre un immense nombre de problèmes. Vous savez, c'est un peu la théorie du piranha. Un piranha tout seul, il va pas vous faire de mal quand il va vous mordre. Mais s'il y en a 1000 qui arrivent, il va vous transformer en squelette instantanément. Et toutes les centaines et les centaines de solutions qu'on trouve partout sont là justement pour montrer que On peut devenir efficient partout, donc on peut, en fait, on peut résoudre tous les problèmes d'un coup. Vous étiez en train de parler de ces désherbants spéciaux, mais en fait, c'est même pas chimique, c'est ça qui est intéressant, on sort du problème, c'est un autre paradigme. C'est une machine qui, par laser, détecte les mauvaises herbes et les brûle, les coagule. Donc, on est dans quelque chose qui pollue pas du tout. Et on voit que partout, il y a des nouveaux débouchés, des nouvelles manières de faire du commerce, de faire de l'agriculture, de l'industrie, de chauffer les maisons, de les isoler. Et chaque fois, on donne du travail à des employés de nouvelles entreprises qui se développent. C'est ça qui me donne de l'espoir. Mmh. Et c'est ça qui fait que la victoire des Verts à ces municipales va pouvoir probablement s'accompagner d'un grand nombre de résultats. Et le président Macron, n'étant ni à gauche ni à droite, va pouvoir appliquer, je pense, tout ce désir citoyen, tout ce désir environnemental de manière politique. Donc c'est un immense avantage d'avoir un gouvernement comme ça qui va pouvoir réagir très très vite à ces propositions citoyennes.
On va voir justement ce qui sera décidé du côté de l'Élysée, encore une fois, à la lumière des propositions de la Convention et du scrutin d'hier. On a les citoyens, on a cette Convention, on a les entreprises, les acteurs économiques, les start-up que vous présentez ce matin. Mais il faut passer par la loi, la régulation, ou est-ce que l'économie peut entraîner le politique ? Qui est le mieux-disant aujourd'hui ?
Alors, l'économie a pendant longtemps résisté en pensant que l'écologie était chère, coûteuse, nécessitait des sacrifices et des subventions. Aujourd'hui, on voit que ce n'est plus du tout ça. Donc on voit qu'on peut faire de l'écologie dans tous les partis politiques et il ne faut surtout pas que les autres partis commencent à faire de l'opposition pour essayer de garder des voix pour les prochaines législatives, etc. Il faut que tous les partis embrassent cet extraordinaire chantier environnemental, indépendamment des partis, parce que c'est ça qui va redresser la France, qui va redresser l'économie, c'est ça que les citoyens veulent, et c'est de ça qu'on a absolument besoin dans l'humanité si on veut avoir une bonne qualité de vie dans le futur. Alors la France montre l'exemple, il faut aussi que les autres pays suivent cet exemple.
Je souligne, je rappelle, Bertrand Piccard, que vous êtes suisse. La voie référendaire, la consultation des citoyens, c'est une solution, c'est un risque, il faut faire confiance dans le vote des citoyens, prendre les risques du non ?
En Suisse, ça marche extrêmement bien, parce que les enjeux des référendums ne sont pas des plébiscites pour ou contre le gouvernement. Quand le gouvernement suisse propose quelque chose et que le peuple refuse, ça fait pas tomber le gouvernement. Le gouvernement dit, ah bien, c'est très bien, c'est pas ce que le peuple voulait, ben on va proposer autre chose. Et en France, il faudrait que ce soit aussi comme ça. Il faudrait absolument que si le président Macron soumet les résultats de cette convention citoyenne à la population, eh bien, ce soit l'occasion justement de soutenir une action et soutenir un projet commun. Ce serait catastrophique que juste par opposition à la politique de La République En Marche, le peuple refuse un référendum sur l'écologie et qu'on revienne à la case départ avec finalement la nature qui est prise en otage et qui continuera à être détruite.
Alors dans la politique française, nous verrons ce qu'en fait La République En Marche, surtout le couple de l'exécutif, le président de la République et le Premier ministre, et puis les citoyens de la Convention pour le climat, on verra ce qu'ils disent aussi à la sortie de l'Élysée aujourd'hui. Bertrand Piccard, merci beaucoup. Merci d'avoir pris quelques minutes pour les auditeurs d'Europe 1 ce matin.
Mais avec plaisir, c'est un sujet passionnant.
Je le sais qu'il vous passionne ce sujet, que vous êtes véritablement engagé sur cette question, d'où notre invitation ce matin, Bertrand Piccard, président de Solar Impulse. Je vous le rappelle que sur le terrain politique, Yannick Jadot sera l'invité de la matinale d'Europe 1 à 8h15 tout à l'heure au micro de Sonia Mabrouk et il répondra à vos questions sur le hashtag Europe 1. Merci Bertrand Piccard d'avoir pris ces quelques minutes pour nos auditeurs. 6h49.
Europe 1. La revue de presse internationale dans un instant. Qu'est-ce qui fait la une à l'étranger ?
Le Japon, la Pologne et le Brésil au programme. À tout de suite.
La matinale d'Europe 1 avec Mathieu Béliard à 6h51, la revue de presse internationale.
L'information telle qu'elle est vécue à l'étranger avec notre réseau de correspondants. Nous démarrons à Tokyo où se trouve Bernard Delattre. Bonjour Bernard.
Bonjour Mathieu.
À la une chez vous.
Le Japon qui se barricade, comme l'écrit le Japan Times. Cet été, il gardera ses frontières fermées aux touristes et aux hommes d'affaires d'une centaine de pays, la France notamment, que Tokyo juge peu sûr d'un point de vue sanitaire. La presse est partagée. Pour le journal de centre-gauche Asahi, qui est assez énervé, on se croirait revenu à l'ère Edo, au temps des shoguns, quand le Japon était complètement fermé à l'étranger. Mais pour le quotidien conservateur Yomiuri, c'est la seule solution pour éviter une deuxième vague de contamination. Le problème, selon le Sankei et le Mainichi, ce sont les critères de choix du gouvernement.
ans. De gros foyers d'infection viennent d'être découverts en Australie et pourtant, les touristes de ce pays seront les bienvenus ici cet été. Ce qui ne sera pas le cas des Taïwanais. Or, cette île fait figure de modèle dans la lutte contre l'épidémie. Bref, pour beaucoup de Japonais, sur les réseaux sociaux notamment, tout ça n'est pas très convaincant.
Merci Bernard Delattre à Tokyo. Fanny Boucaud est en Pologne pour Europe 1. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu.
De quoi est-ce qu'on parle en Pologne ?
Du premier tour de la présidentielle et du président ultra-conservateur Andrzej Duda qui est en tête, suivi par Rafał Trzaskowski, le maire libéral de Varsovie. Sur la télévision publique acquise au pouvoir, le discours de Duda tourne en boucle. Vous devez vous mobiliser encore plus. Le président a effectivement peu de réserves de voix. Le journal modéré Rzeczpospolita titre « Duda ne peut plus dormir paisiblement » parce que le candidat d'extrême droite est arrivé quatrième, très bon score. Et le chef de ce parti a déjà annoncé qu'il ne donnera aucune consigne de vote. A l'inverse, le maire de Varsovie devrait compter sur les électeurs du candidat indépendant, arrivé troisième. Avec ce report des voix, au second tour, il pourrait faire basculer l'élection en faveur du maire de Varsovie.
Merci Fanny Boucaud en Pologne. Marie Nodacher est au Brésil. Bonjour Marie.
Bonjour Mathieu.
De quoi est-ce qu'on parle chez vous ?
C'est le projet de loi pour privatiser les réseaux d'assainissement qui fait la une au Brésil. En pleine pandémie, la moitié des 210 millions de Brésiliens n'a pas accès au système de traitement des eaux. La dignité humaine, mais aussi la possibilité de se laver les mains pour lutter contre le coronavirus sont en jeu. Alors sur Twitter, c'est le hashtag Água não é mercadoria, l'eau n'est pas une marchandise, qui rappelle que les habitants qui ont le plus besoin de ces améliorations sont aussi les plus pauvres dans les favelas. Alors cette logique de marché promue par le gouvernement Bolsonaro promet surtout, selon l'opposition, d'augmenter la facture d'eau. Les défenseurs du projet y voient une opportunité pour attirer de nouveaux investissements et rebooster l'économie. 1 million d'emplois seraient créés dans les 5 prochaines années, selon le gouvernement. C'est ce que rapporte le journal Wall. C'était aussi une promesse de Jair Bolsonaro dans la droite ligne de sa politique libérale. C'est maintenant à lui de promulguer ou non cette loi.
Merci Marie Nodacher. Nous étions ce matin au Brésil, au Japon, en Pologne. C'était la revue de presse internationale, comme tous les jours, à 6h50 sur Europe 1.
Europe 1. Dans un instant, le journal de 7h, la météo, avec Laurent Cabrol sur Europe 1. Il est 6h56, la matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard.
Lundi 29 juin, bon réveil à toutes et à tous avec la matinale d'Europe 1. Ensemble, vous le savez, on écoute le monde changer. Et bien sûr, ce matin, nous allons parler de vos villes. Après 3 mois d'attente pour certaines communes, enfin, les maires vont pouvoir prendre leurs fonctions. Le second tour des municipales, c'était hier. Vague verte, c'est l'enseignement. Strasbourg, Besançon, nous appelons la nouvelle maire à 7h. Tours, Poitiers, Annecy, des villes moyennes et des grandes villes. Également Bordeaux, après un règne sans partage de la droite depuis 1947, la ville de Chabans. Et d'Alain Juppé, amer, vous l'entendrez à 8h dire sa tristesse, Alain Juppé. Pour l'amertume, vous entendrez aussi Gérard Collomb ce matin. À Lyon, les écolos gagnent la ville et la métropole. Un grand chelem. La vague verte, c'est au programme de l'opinion de Nicolas Bétou à 7h50. 8h15, ce matin, l'homme qu'il fallait entendre. Sonia Mabrouk reçoit l'eurodéputé écologiste Yannick Jadot. Heureux ce matin, lui aussi, il boudait difficilement son plaisir sur les plateaux hier soir. Yannick Jadot qui répond à vos questions. Et vous en avez, inscrivez-les déjà sur le hashtag Europe 1. Ce matin, c'est le hasard du calendrier. Nous revenons aussi sur la fermeture définitive, ce soir, minuit, de la plus vieille centrale nucléaire française, Fessenheim, au programme de l'éclairage éco de Nicolas Barré. Nous sommes sur place à 8h avec les derniers ouvriers. Pour l'écologie toujours et le remaniement, quelques rendez-vous dans la journée et dès ce matin sur Europe 1. Emmanuel Macron reçoit les 150 citoyens de la Convention pour le climat. Que va-t-il faire, le président de la République, de leurs 149 propositions, des résultats du scrutin hier aussi? L'écologie au cœur de vos préoccupations? Dites-le sur le hashtag Europe 1. Vous le savez, on raconte ce monde qui change. Dans un climat de défaite cuisante pour La République En Marche, on va en parler avec Mickaël Darmon dans le journal de 7h. Dans ce climat, Édouard Philippe sauve l'honneur de la majorité, largement réélu au Havre. On parle de remaniement dans les jours qui viennent. Édouard Philippe s'entretiendra avec Emmanuel Macron, hein, aujourd'hui, tête à tête entre le président de la République et son Premier ministre, qui sera renforcé par ce sondage que nous révélons ce matin. Avec l'IFOP et la Tribune, nous vous apprenons que pour 45% des sondés, Édouard Philippe est la personne la plus à même, la plus digne de confiance, je cite, hein, pour réinventer la France. Il précède Nicolas Hulot. Tiens, c'est intéressant là aussi. On en parle avec Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, à 7h40. Et puis enfin, tous les jours, vous le savez, le rendez-vous culture de la matinale à 7h50, c'est Périscope. La mer. Jean-Philippe Ballas nous présente le nouvel album de Thomas Dutronc, Frenchy. 14 reprises de chansons nées en France et qui ont fait le tour du monde. Alors évidemment, la mer, on entend Charles Trenet, mais des choses plus surprenantes. Tenez, vous allez reconnaître. Get Lucky de Daft Punk et Pharrell Williams. Tiens, le nouveau Thomas Dutronc, c'est dans Periscope avec Jean-Philippe Ballas à 7h50.